Romains 8, 1 à 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous.
Dimanche dernier, on a eu l'occasion d'assister au baptême de Genova et c'était une joie de pouvoir entendre comment le Seigneur s'est fait connaître à elle et aussi comment elle a saisi cette bonne nouvelle d'un salut qui ne se vit pas par l'obéissance, par des œuvres, mais qui est reçu par grâce. Et on aura la joie d'assister à d'autres baptêmes dans les semaines qui viennent, dimanche prochain déjà, celui de Mehdi. Et je ne vais pas jeter un pavé dans la mare, mais... À quoi est-ce qu'on s'attend pour l'après, après son baptême, après leur baptême, à quoi est-ce qu'on s'attend? Aucun doute, aucune épreuve, aucune souffrance. J'espère que ça vous donne envie de vous faire baptiser. je vais semer le trouble, mais à quoi est-ce qu'on pense une fois qu'on s'est fait baptiser? Est-ce qu'on pense que c'est le départ d'une nouvelle vie? C'est vrai. Dans un sens, mais on peut s'attendre aussi à certaines difficultés. Et les auditeurs de l'apôtre Paul, les lecteurs à Rome, ils sont bien placés pour savoir qu'il y aura des difficultés. Ils vont connaître des persécutions, certains vont connaître la maladie, ils vont connaître la mort. Il y aura certainement des moments où les uns ou les autres vont avoir des doutes, des souffrances, des épreuves. Et puis on peut imaginer les questions qui se passent dans leur esprit. Après avoir entendu tout ce qui a été dit sur cette bonne nouvelle, cette justification par la foi, cette paix avec Dieu, ce que je vis là, ma souffrance que je vis là, est-ce que ça signifie que j'ai fait quelque chose de mal? C'est le genre de doute qui peut venir dans la vie d'un croyant. Ou alors tout simplement, est-ce que je suis vraiment en paix avec Dieu? Est-ce que je suis vraiment justifié devant lui et destiné à la vie éternelle? Est-ce que ça change quelque chose d'avoir cru en Jésus ou est-ce que ça ne change rien? Et dans ce chapitre 8, c'est la sécurité du croyant qui est en vue, je vous suggère. La sécurité du croyant, son assurance. Il y a encore question de justification par la foi, mais on est en train de passer progressivement d'une vérité objective, ce que Jésus a fait pour eux dans l'histoire, à une vérité, à une conviction subjective, quelque chose qui va être expérimenté pour eux. Et si on regarde ce chapitre, il sera question de péché, il sera question de souffrance, et comme si ça ne suffisait pas, à la fin du chapitre, l'apôtre Paul dresse des listes, Détresse, angoisse, persécution, faim, dénuement, danger, épée. Il y a comme une montée en crescendo. Mais le cadre est posé. Au verset 1, il commence par dire « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et à la fin, verset 38-39, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le souci de l'apôtre Paul dans ce chapitre, c'est l'assurance du croyant, sa sécurité. Et on va le voir en deux temps, une sécurité en Christ, une sécurité par l'Esprit. Dans les versets 1 à 4, une sécurité en Christ et une sécurité par l'Esprit dans les versets 5 à 11. En résumé, on peut dire que ce que nous sommes en Christ sera rendu effectif par l'Esprit en nous, expérimenté. Une conviction objective de ce que Christ a fait dans l'histoire devient une conviction subjective appliquée à nos cœurs par l'Esprit. Ça ne signifie pas qu'ils sont tous les deux séparés, on va les voir intimement liés justement dans ces versets. Mais on commence par une sécurité en Christ dans les versets 1 à 4. Quelque temps, j'ai vu un documentaire sur Winston Churchill et c'était intéressant de voir un aspect de sa vie que je connaissais peu. L'importance du regard de son père sur sa vie. La recherche d'approbation chez son père. Quand on pense à Winston Churchill, on pense à sa détermination pendant la Deuxième Guerre mondiale, on pense à des discours célèbres, on pense au courage qu'il a eu se positionner comme leader, ses dons de leader pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette face cachée d'un regard de son père qu'il recherchait, c'est apparu dans ce documentaire. Et alors qu'il était jeune, son père lui a semble-t-il dit une parole et d'autres assez dures. Et l'an dernier, une biographie de Churchill est sortie avec le titre « Tu seras un raté, mon fils. Tu seras un raté, mon fils. » Une parole que son père lui aurait adressée. Et Winston Churchill dira plus tard par la suite « J'ai grandi dans la poche de son gilet, oublié comme un penny. » Dur quand on y pense. Et il en a souffert de ce regard, du regard de son père, un regard méprisant. Et ici ce soir, j'imagine qu'on a tous eu à un moment ou à un autre une parole, une perspective sur nous qui nous a fait du mal. Quelqu'un plus ou moins proche, un parent, un ami. Une parole qui a été dure à entendre, une critique plus ou moins fondée, qu'on a entendue directement ou indirectement, mais qui nous a blessés. Mais l'apôtre Paul commence ici par déclaration, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et le mot « donc » qui fait le lien avec tout ce qu'il a dit précédemment sur la justification par la foi, c'est sur cette base-là qu'il peut dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il est difficile de mesurer la valeur de cette déclaration. Ces derniers jours, on a parlé de certains pays africains qui ont décidé de se retirer de la Cour pénale internationale, ces pays. C'est le cas, par exemple, du Burundi, de la Gambie, de l'Afrique du Sud. Ils estiment que le regard qui est porté par la CPI sur l'Afrique, cette Cour se focalise trop sur l'Afrique. Et il y a comme deux poids, deux mesures par rapport aux autres continents. Et dans ces décisions, on sent que le regard qui est porté sur eux n'est pas apprécié. La Cour pénale internationale, c'est la plus haute cour. Mais ici, on a un jugement qui est porté par quelqu'un encore au-dessus de cette cour-là. Un jugement qui est bien plus juste, bien plus pénétrant, qui touche tout être humain, quelle que soit sa condition ou son origine. Les croyants peuvent s'entendre dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le jugement au-dessus de tout jugement, le seul jugement qui compte vraiment par rapport à tous les autres jugements, ce jugement-là, seul vraiment fiable aussi, le plus important qui soit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle libération d'entendre quelque chose comme ça. Et c'est justement en termes de libération, verset 2, que l'apôtre parle. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Question d'une libération de la loi du péché et de la mort. Et dans le chapitre 7, on se souvient avoir entendu l'apôtre Paul faire part d'une lutte. Et c'est là qu'il a utilisé pour la première fois cette loi du péché, parce qu'il se sentait comme prisonnier, esclave de cette loi du péché. Comment comprendre cette loi du péché d'un côté, cette loi de l'esprit de l'autre? On pourrait traduire ou trouver l'équivalent pour loi avec un mot comme autorité ou puissance. En tant qu'autorité, il y a d'un côté le péché, il y a de l'autre l'autorité de l'esprit. Deux aboutissements, la mort d'un côté et la vie de l'autre. Et c'est donc par l'esprit que le croyant peut expérimenter cette libération et passer de l'autorité du péché, de la mort, à l'autorité de l'esprit qui donne la vie. Et pour nous expliquer, parce que c'est vrai que c'est assez difficile pour nous de saisir cela, l'apôtre Paul entre dans les versets 3 et 4 dans une explication pour expliquer comment cela est possible. Et on peut y voir comme un petit résumé de la justification par la foi. On en a déjà parlé dans les premiers chapitres, mais là, il y a comme un petit résumé de cette justification par la foi. Comme il l'a fait au début de sa lettre et comme il l'a fait au chapitre 7, il commence par dire que par nous-mêmes, on est incapable d'obéir à la loi de Dieu. On est incapable de faire le bien par nous-mêmes, naturellement, de se libérer du péché par soi-même. Il a fallu, dans un deuxième temps, il explique, que Dieu envoie son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et remarquez l'équilibre, il est semblable à nous et en même temps il n'a pas péché. Et en ça, Jésus constitue un parfait substitut. Quelqu'un qui est comme nous dans notre nature, mais qui n'a pas péché. Et de quelle façon est-ce qu'il a été notre substitut? L'apôtre Paul continue. Dieu a condamné le péché dans la nature humaine. En Jésus, le péché a été condamné à la croix. En Jésus, le péché de tous les croyants a été condamné, sanctionné, parce qu'il a été notre substitut, celui qui a pris notre place. Le péché est donc pris sur lui, et l'apôtre Paul le dit ailleurs, peut-être ça vous aidera de l'entendre quand il écrit aux Corinthiens, il dit... La chose suivante, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et un peu plus loin, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Un échange. Pour nous réconcilier à lui-même, Dieu a envoyé son Fils dans la nature humaine, en condamnant le péché en lui. En tant que substitut, donc. Mais remarquez que ce n'est pas simplement un substitut qui prend notre condamnation. Il y a un véritable échange qui se fait aussi sur le plan positif de la justice. Au verset 4, il est question de cet accomplissement en Jésus de la loi. Il n'a pas simplement pris notre condamnation sur lui. Cette vie parfaitement juste qu'il a vécue, il est prêt à nous le donner, comme un crédit porté à notre compte. Il a été le véritable substitut. Et quand on dit en Jésus-Christ, on parle de cette union mystérieuse des croyants qui savent en Jésus-Christ avoir un substitut qui leur donne sa justice et qui a pris sur lui leur condamnation. Et c'est pour cela que le croyant peut s'entendre dire « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et quel soulagement d'entendre ça. Comment est-ce qu'on va l'appliquer, ça? Alors, je vais rappeler un souvenir difficile. Quand j'étais en formation pour devenir instituteur, j'étais en stage dans une classe à la campagne et j'avais une leçon à faire. Et il y avait non seulement mon prof de stage, il y avait aussi un autre étudiant qui faisait le stage dans la même classe. et un responsable de la formation qui est venu assister à cette leçon. Alors je vais vous ménager, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est allé de travers dans cette leçon. On était dehors, c'était une leçon sur la haie, donc les haies entre différents champs. Je vais vous en dire quand même quelques mots, mais pas dans le détail. Mais j'avais préparé des activités avec des feuilles, et bien sûr, à cause du vent, les feuilles partaient dans tous les sens. Et quand finalement j'ai eu la présence d'esprit de mettre toutes les feuilles sur le chemin avec des pierres, le tracteur de l'agriculteur du coin est arrivé et tous les enfants ont crié « Yeah !» et se sont jetés sur le tracteur. Et j'en passe. À la fin de la leçon, l'observateur est venu vers moi et il m'a dit des mots qui sont restés gravés dans ma mémoire. Cette leçon était remarquable. Il s'est arrêté et il a poursuivi. Elle était remarquable dans le sens où j'ai beaucoup de remarques à vous faire. Et il a passé le reste du temps à m'expliquer tout ce qu'elle allait de travers. Quand on a une déclaration comme on entend ici, qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact? Qu'est-ce qui va nous permettre, si on l'a bien comprise, de pouvoir entendre des critiques justifiées, vis-à-vis de nous, sans être complètement anéanti? Qu'est-ce qui va nous permettre parfois d'entendre des critiques qui, elles, sont injustifiées, infondées, et ne pas tomber dans la colère, le désir de vengeance? Qu'est-ce qui va nous permettre aussi de pouvoir venir à Dieu et de pouvoir lui demander pardon sans se voir complètement anéanti là encore, sans avoir peur du regard qu'il va porter sur nous? Qu'est-ce qui va nous permettre de demander pardon vis-à-vis de quelqu'un sans se sentir dévalorisé par rapport à cette personne? Qu'est-ce qui va nous permettre de plus en plus sereinement de vivre malgré les cicatrices que chacun d'entre nous en a? Et certains diraient, mais ils sont couverts de cicatrices, couverts de blessures, de paroles, de choses qui ont été dites. Qu'est-ce qui va nous permettre de vivre de plus en plus sereinement? Est-ce que ce n'est pas justement d'avoir cette parole qui nous est dite? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une parole qui est prononcée par celui qui est juge au-dessus de tout et qui sait bien mieux, qui est beaucoup plus juste que nous et qui sait bien mieux ce qui s'est passé dans notre vie et qui peut nous donner cette assurance. Et elle vient, cette parole, du fait que nous sommes en Christ, comme représentés par lui. On passe ensuite à par l'Esprit dans les versets 5 à 11. Vous dites un petit supplément. Non, je vais 5 à 11. Première manière pour les croyants d'expérimenter cette sécurité, pour l'apôtre Paul, c'est, semble-t-il, de revenir sur cette vérité de la justification par la foi, de repenser à cette déclaration. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on a encore des moments où on est troublé. Il y a encore des moments où on va vivre des doutes. Il y a encore des moments où la culpabilité va être pesante, où on aura l'impression que des circonstances de notre vie sont trop difficiles. Quel est l'encouragement de l'apôtre Paul dans les versets 5 à 11? On peut relever, il en dira encore davantage dans la suite du chapitre, mais on peut relever en tout cas deux choses qui sont rendues possibles par l'Esprit. Un cœur animé par l'Esprit, ça doit être un sujet de réconfort. Un cœur animé par l'Esprit dans les versets 5 à 9, et un corps ressuscité par l'Esprit dans les versets 10 et 11. Dans ces versets 5 à 9, l'apôtre Paul constate qu'il y a ceux qui sont animés par leur propre nature, il les contraste avec ceux qui sont animés par l'Esprit. À qui est-ce qu'il fait référence quand il parle de ceux qui sont animés par leur propre nature et ceux qui sont animés par l'Esprit? Est-ce qu'il est en train de parler de deux catégories de chrétiens? Et ça, si vous y réfléchissez quelques instants, ce ne serait pas du tout encourageant. Vous imaginez quelqu'un qui vient vers vous et vous dit, vous savez, tu sais, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a la catégorie de ceux qui sont animés par leur propre nature et il y a ceux qui sont animés par l'esprit. Tu es dans quelle catégorie? S'imaginer quelqu'un qui vous vient, ce serait décourageant possible. Comment vous voulez mettre dans la catégorie de ceux qui sont animés par l'esprit? Vous êtes plus humble déjà, comme vous l'avez dit. Ça ne serait pas encourageant. Non? Et l'apôtre Paul le dira par la suite au verset 9. On ne peut pas être en Christ sans être animé par l'esprit. Autrement dit, si on est en Christ, on est de toute façon animé par l'esprit. Et c'est là qu'il y a un encouragement et qu'on verra un encouragement. Le croyant, celui qui est en Christ, peut savoir qu'il est animé par cet esprit. Et il va contraster, un contraste, il n'est pas entre deux types de croyants, il est entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Entre ceux qui sont croyants, qui ont placé leur confiance en Jésus, et ceux qui ne l'ont pas placé en lui. Et l'encouragement, c'est de savoir qu'il y a une puissance surnaturelle à l'œuvre dans la vie du croyant. C'est ça qui est encourageant en soi. Une puissance surnaturelle à l'œuvre. Alors qu'est-ce que j'entends par puissance surnaturelle? Vous imaginez peut-être quelqu'un qui a une auréole au-dessus de la tête, super, il plane au-dessus des difficultés, et chaque fois que vous le rencontrez, il y a un grand sourire, et ça va, bien sûr que ça va. Il est au-dessus, il est... Et puis il passe de vision en vision, d'expérience formidable en expérience formidable. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, si vous regardez l'apôtre Paul ici, il situe tout au niveau de la pensée. Cette origine surnaturelle, elle agit au niveau de la pensée, de la volonté, des motivations, du cœur. On entend là ce qui va motiver la personne, une origine surnaturelle dans ce sens-là. Et on l'a bien vu dans le chapitre 7, il y a cette lutte. Il y a cette lutte, et il le redit aussi au verset 7, « La nature humaine, naturellement, on ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. » Une des choses que j'apprécie, et je pourrais même dire une des choses que j'apprécie le plus dans le ministère, ce sont ces moments où, dans le cadre d'un entretien, j'entends quelqu'un dire que sa manière de penser a changé par rapport à avant. Sa manière de voir a changé. Sa manière de vivre a changé, sa manière de parler a changé. Et encore plus beau, c'est d'entendre cette personne dire « Mais ça ne vient pas de moi. Je vois ce changement, j'y assiste, mais ça ne vient pas de moi. » C'est bien de ce que l'apôtre Paul veut décrire ici. Il y a un changement, une réorientation de vie, de manière de voir qui n'est pas naturelle, précisément. C'est l'esprit qui est à l'œuvre. Et j'imagine que les questions que vous pouvez peut-être avoir en tête, est-ce que ça signifie ici que l'apôtre Paul, il parle de croyants comme des personnes qui ne pêchent pas, qui ne commettent jamais d'erreur? Mais non, ça ne colle pas avec ce qu'il dira et ce qu'il a dit plutôt dans sa lettre. Est-ce que ça signifie que les incroyants, eux, sont incapables de faire le bien? Non, ça ne colle pas avec ce qu'il a dit au début de sa lettre. Ils sont capables de bien aussi. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un cœur qui a changé, des motivations qui ont changé, et progressivement ça va se voir, et ça va se voir de plus en plus. Et par une série de contrastes, il parle de changement, changement de préoccupation. Par nature, on est préoccupé par les réalités humaines, mais là, le changement, c'est on est préoccupé par ce que Dieu veut. Il y a un changement de direction, c'est vers la mort que quelqu'un d'incroyant tend, malheureusement. Mais c'est vers la vie et la paix que tend surnaturellement quelqu'un qui est croyant. Il y a un changement dans la nature de ce qu'on vit. Naturellement, on tend à être rebelle par rapport à Dieu, à vouloir être sa propre loi, autonome par rapport à lui, naturellement. Eh bien, pour le croyant qui est habité par son esprit, il y aura ce désir de lui plaire. Et progressivement, et petit à petit, mais ce désir de lui plaire. Et on l'entend, il veut rassurer les chrétiens de Rome. Au verset 9, il leur écrit, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et vous entendez l'équivalence qu'il fait ici? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pas d'une sécurité sur certains doutes. Et parfois, ces doutes, ils peuvent venir d'un enseignement qui est trompeur. J'ai entendu dernièrement un jeune chrétien dans la foi me dire qu'il avait rencontré quelqu'un qui n'est pas de cette église, mais qui lui disait, en gros, « Ah bon, tu es devenu chrétien ? Mais est-ce que tu as reçu l'Esprit ?» Et cette personne lui suggérait de venir pour recevoir une prière particulière, et semble-t-il même tomber à terre, pour être certain qu'il avait reçu l'Esprit. Mais c'est complètement en porte-à-faux avec ce qui est dit ici. Jésus le dit ailleurs, Jean 3, c'est par l'Esprit que quelqu'un devient croyant. Et ici, l'équivalence, c'est qu'il n'y aura pas de personne en Christ sans qu'il soit animé par cet Esprit. Il y a bien un Esprit qui est à l'œuvre, et ça doit être un encouragement. Un encouragement parce qu'il anime et il change petit à petit notre cœur dans le présent. Mais l'apôtre Paul poursuit dans les versets 10 et 11 en parlant aussi d'une affirmation par l'Esprit qui concerne l'avenir. Un corps ressuscité par l'Esprit. Johnny Erickson Tada est tétraplégique. Elle est conférencière, auteure, engagée dans différentes œuvres et en particulier dans une œuvre qui encourage des enfants qui sont eux-mêmes handicapés. Elle a eu un ministère remarquable. Adolescente, alors qu'elle n'était pas encore tétraplégique, elle pratiquait le sport, le tennis, la natation, l'équitation. Mais le 30 juillet 1967, elle plonge d'un rocher, elle a mal évalué la profondeur de l'eau, et elle heurte un rocher. Il y a une fracture entre la quatrième et cinquième cervicale et elle devient tétraplégique. Et à partir de là, elle va passer par la colère, la dépression, les pensées suicidaires, les doutes dans sa foi. Elle va vivre tout cela. Et dans la sincérité, elle va vivre tout cela en pouvant crier sa détresse à Dieu, sa colère, son incompréhension, mais dans le cadre de la foi. Par la suite, des années plus tard, dans une retraite avec des enfants handicapés justement, elle se souvient avoir entendu des paroles d'Ésaïe 35, et je vous les lis, versets 5 et 6, il est question d'un avenir. « Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. » Ils ont ri ce soir-là. Il y avait eu un spectacle où des enfants, dans leur chaise roulante, tournaient avec la musique, faisaient une sorte de chorégraphie. Et à la fin de la soirée, une mère lui a offert des baskets rouges. Baskets qui ne servent pas vraiment à grand-chose puisqu'elle ne peut pas marcher. Et elle a ri à gorge déployée à ce moment-là. Mais par la suite, en se mettant à son lit, en se couchant, elle se souvient avoir murmuré alors que les larmes lui venaient « Un jour bientôt, Seigneur Jésus, je danserai, je sauterai comme un cerf. » Cette parole, elle concerne la résurrection. Il y a bel et bien une espérance chrétienne de la résurrection d'un corps. Et l'apôtre Paul, il n'est pas dupe par rapport à la réalité de la mort. Lui-même va faire face à la mort. Mais il a l'assurance qu'en Christ, il y a la chose suivante. Et je vous lis, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Le croyant ne vit pas simplement dans le présent, comme si tout était dans le présent. Il vit avec ce glorieux avenir, une espérance qui concerne la résurrection des corps aussi. Et cet esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus ressuscitera aussi les croyants par l'Esprit. La sécurité dont l'apôtre Paul a parlé dans ces versets, elle a commencé avec une déclaration. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il a aussi parlé d'une sécurité qui vient d'un cœur qui est animé par l'Esprit et qui progressivement voit des changements. La sécurité, elle vient aussi d'un avenir glorieux, d'une espérance, un corps ressuscité par l'Esprit. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu connais les doutes et les moments de découragement des uns et des autres. Tu connais ces moments où nous sommes découragés ou attristés par notre péché, ou tout simplement déboussolés par les circonstances de notre vie. Nous voulons te remercier pour cette glorieuse déclaration. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.